C'est rare que je fais un copier-coller d'un post d'un animateur ou d'une animatrice d'une autre station. Mais là, quand on m'a dit, ben, coudon, elle travaille pas au 93, t'as le droit. OK, parfait, on va se gâter. Myriam Segal, allô, comment ça va?
Ça va bien. J'entends des chroniques, mais je suis plus animatrice à temps plein.
OK, donc on est en toute légalité ce matin.
Bon, j'ai toujours été en toute légalité dans mes libertés.
Oh, j'aime ça, ça commence bien. Tu t'es permis de recaser certains amis de Montréal avec ton post dans la fin de semaine qui, ma foi du bon Dieu, a fait énormément jaser. Le troisième lien. Oui, mais si on coupait dans le troisième lien, on aurait des écoles neuves. Mais si on coupait dans le troisième lien, un troisième lien qui n'existe pas, soit dit en passant, faudrait peut-être leur rappeler, là.
Oui, et ça m'agace de plus en plus. Là. L'autre jour, Isabelle Maréchal s'est fendue d'un article là, disant que si Maisonneuve-Rosemont est en train de s'effondrer, c'est à cause du troisième lien. Jean-René Dufort, que j'aimais bien à l'origine, est devenu un prédicateur anti-troisième lien dans son émission qui n'a même plus rien d'humoristique sur le sujet. Là. Jean-Philippe Vautier, du haut de sa chaire radio-canadienne, a accueilli Christine Fréchette en ne lui parlant que du troisième lien. Bref, ils ont l'air d'en faire une obsession. Et je suis pas sûre que ce soit les Montréalais comme l'espèce d'élite montréalaise médiatique qui en fait une obsession. Or, il y a 43 millions de dépensés sur l'idée du troisième lien. Actuellement, il y a 1 milliard d'engagés sur la rénovation du stade olympique, au cas où un jour Taylor Swift aurait envie de venir.
Ce qui n'est pas vrai, là. Elle ne viendra pas. Et en plus, ils avaient poussé l'odieux, Myriam, mais on aurait écouté l'extrait ce matin. Ça, c'est Proulx qui avait dit ça, mais le gars responsable de ce qu'on appelait la RIO avait dit « Oui, puis en plus, on parle avec la NFL. Wow! »
Ben oui. Ben oui, écoute, c'est pas le stade olympique, c'est ni à faire ni à refaire. On peut rien faire avec ça. Là. Ça va être un salon de l'auto géant de temps en temps, point à la ligne. Mais on a quand même, puis honnêtement, la régie du bâtiment là-dedans, Paul Beaureau, là, il voulait rajouter des haut-parleurs puis un système de son qui a de l'allure. Puis la régie du bâtiment a dit attends un peu. L'anneau technique est très bien fait. Il n'y a pas de faille. Il va bien. Mais d'un coup qu'on reconstruirait, on ne reconstruirait pas comme ça. Donc, on va tout défaire, on va le construire comme on le construirait maintenant. Donc, on part dans des coûts qui sont absolument délirants. Et bizarrement, toute cette élite médiatique montréalaise, y compris les politiciens, là, vous poserez la question à Charles Milliard, ça vous tente, là, y compris les politiciens, ne se scandalisent pas de ça, mais se scandalisent d'un 43 millions de dollars d'investis dans une idée que 70% des gens de la région de Québec appuient. Puis ça aussi, ça commence à m'agacer de voir que quand une population appuie massivement un projet, on dit que cette population est cave.
Est-ce que le fait que ce projet-là ait pu être moussé, parce que soyons francs, allons-y avec les faits, c'est un projet qui, à l'origine, a été moussé par une certaine station de radio qui en ont fait des autocollants. Et vous aviez ici François Legault qui était quasiment aussi présent que le patron de la propre station que vous écoutez d'un corridor. Regarde, t'avais du caquiste au pied carré ici, je peux te le dire. Là. Est-ce que ça, à l'origine, ça a peut-être plus influencé le bitching montréalais?
Peut-être, je sais pas. Là. Ce qui est clair, là, c'est que aussitôt que de l'argent est dépensé en dehors de Montréal,
oui,
cette élite médiatique montréalaise se pense en droit de juger le projet. Tandis que quand l'argent est dépensé à Montréal, ni à Québec, ni au Saguenay, ni en Abitibi, on est en train de dire « Hey, regarde, le stade olympique, ça m'a scandalisé. Mais j'en ai pas fait une chronique, j'en ai même pas fait un post. » Tu sais, ça me choque, mais c'est leur choix. Je les laisse aller avec leur choix. Si eux autres, leurs politiciens, ils les applaudissent quand ils font ça, ça les regarde. Mais cette idée que Montréal peut juger de ce qui est bon pour le reste de la province, on a un autre exemple avec la fonderie Orme.
Oui.
Avec dans la région de l'Abitibi, les gens veulent garder la fonderie Orme. Ils veulent tellement la garder qu'ils ont sacré dehors à coups de pied dans le derrière Émilie Thérien-Lessard,
oui,
qui est maintenant chroniqueuse, là, et qui était leur députée parce qu'elle voulait fermer la fonderie. Alors, les gens de la région veulent garder la fonderie Orme, mais il y a une élite bien pensante, écolo-montréalaise centriste, qui veut la fermer. Puis là, on entend que du mal sur cette fonderie, qui est la dernière fonderie de cuivre, peut-être une des dernières en Amérique du Nord, et qui est fondamentale. Puis là, Pierre-Paul Saint-Pierre-Plamondon vient de se réveiller, vient de se rendre compte qu'il y a une usine à Montréal qui va fermer si on ferme la fonderie Orme. Alors, il y a dans l'attitude de l'élite montréalaise quelque chose de très paternaliste à l'endroit du reste de la province.
Est-ce que c'est pire qu'avant, Myriam, parce que tu as travaillé pour Télémédia, tu as travaillé pour ce qu'on a appelé Radio Mutuelle, Radio Média par la suite. Est-ce qu'il y avait justement ce nombrilisme montréalais avant où ça s'est vraiment exacerbé au fil du temps de par le fait que les salles de nouvelles ont été décharnées? Il n'y a plus de salle de nouvelles régionale, il n'y a plus de contrebalance, si tu veux, dans la couverture. Ton analyse, t'en fais quoi? C'est quoi?
Ça a toujours existé. Quand j'étais en 84-85 à la station CHRC et qu'on était enfin libéré du réseau, ça a été une libération. Le réseau Radio Mutuelle, Télémédia, Radio Média qui a suivi, avait cette tendance à décider que ce qui se passait sur la rue de Lerumier était toujours plus important que ce qui se passait dans le parc des Laurentides. Bon. c'était un combat qu'on pouvait faire. Maintenant, il y a comme une élite médiatique bien pensante qui est lâchée louche à Montréal. Et d'autant plus qu'on a de plus en plus de chroniqueurs et de moins en moins de journalistes. Donc, de moins en moins de faits et de plus en plus d'opinions. Dans tous les médias, d'ailleurs, parce que c'est plus facile, c'est plus simple, tu remplis ta case, t'es sûr que la case va être remplie, bon, etc. Alors, il y a... oui,
c'est quasiment, il y a eu la dictature du prolétariat, maintenant c'est la dictature du commentariat.
C'est ça, mais puis on en fait partie. Moi, j'en suis du commentariat. Mais tu vois, il y a quand même... Moi, je fais un grand parallèle entre l'idée du troisième lien. Ouais. On s'entend que personne ne va le faire. Là, pour l'instant, les libéraux nous ont niaisés pendant 6 ans, les caquistes pendant 8 ans là-dessus. On s'entend qu'il n'y a aucun parti actuellement en lice qui va faire le troisième lien. Cependant, ça reste une idée auquel les gens croient profondément à Québec. Et ça a des motifs géographiques, ça a des motifs de logique. Et ce qui est choquant, c'est de voir que les médias, particulièrement montréalais, sont incapables d'aller chercher ces motifs géographique et logique. Ils font comme si on était une gang de caves.
Mais prends l'exemple de GNL aussi. Les gens de Saguenay le voulaient GNL, mais en général, les Québécois, il y a une acceptabilité sociale quant à l'exploration des hydrocarbures, de manière responsable, bien entendu, mais toute la vallée du Saint-Laurent, avec ses grands réservoirs de gaz naturel, on serait pour. Ah non, Montréal, non, regarde, ça va sauter, ça va brûler, on veut rien savoir. Et tout. Donc, le bon vivre, le bon parler, le bon penser de l'île est imposé sur le reste de la province.
Il y a de ça, mais il y a aussi, dans les régions, des logiques qui ne se rendent pas. Tu vois, moi, j'ai participé dans les dernières années, parce que ça a commencé environ 25 ans avant que j'y arrive, là, à la mise en place de l'idée d'une route à 4 voies divisée dans le parc des Laurentides. Oui. Pour les Saguenayens, c'était une évidence. Depuis des années, c'était une évidence.
Ah oui, c'était une tuasse.
Mais on perdait 20 personnes par année.
C'est ça.
Ta visite venait de voir, puis tu n'étais pas sûr de la voir. OK? Tu n'étais pas sûr de ne pas aller à des funérailles à la place d'aller au party du jour de l'an. Alors, c'est... Il y avait 20 morts par année. Et les experts nous disaient non, vous n'avez pas besoin de ça, dont Alexandre Turgeon, qui était du Conseil régional en environnement de Québec. Non. Les experts nous disaient non, vous n'avez pas besoin de ça, il n'y a pas assez de trafic, on ne sera pas capable de déneiger la voie de gauche, c'est inutile, l'achalandage ne le nécessite pas. Et ils nous ont fait des discours pendant 25 ans, jusqu'à ce que à Ottawa et à Québec, des étoiles politiques se sont alignées. Ils avaient désespérément besoin du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour passer au pouvoir et les deux se sont commis en même temps. Un jour, c'est arrivé. Mais c'est arrivé parce qu'il y a eu des élections fédérales et aux provinciales presque en même temps. Et c'est comme ça qu'on l'a obtenu, la route dans le parc des Laurentides. Mais ça faisait des années que les experts disaient non et que la population disait oui. Et c'est un peu la même chose avec le troisième lien. On nous sert des experts qui nous disent non, puis nous, intrinsèquement, on sait qu'un pont de 125 ans, de 120 ans, non, il y a 100 ans, le pont de Québec, qu'un pont de 100 ans et un pont de 50 ans, ça t'offre pas une éternité. Puis qu'on est mieux de penser à une alternative. Et on sait aussi, instinctivement, qu'une route qui fait un fer à cheval, ça augmente le trafic sur les deux côtés.
C'est pour ça que Fréchette hésite, elle a peur du lobby montréalais. Elle a peur de ses amis puis de déplaire. Il y a le lobby montréalais puis il y a les bien-pensants de l'île. Tu les as très bien décrits. Mais il y a les politiciens également qui sont pleutres, qui n'osent pas se soulever et dire on le fait, c'est ça, et coûte que coûte, on le défend de la bonne façon. Moi, je pense que la CAQ a très mal défendu le troisième lien en passant à Myriam. On l'a très mal vendu. On n'a pas parlé, pas assez, à tout le moins, parlé du fait que c'est une voie de contournement incroyable pour le camionnage qui va sur la Côte-Nord. On l'a mal expliqué pour l'Est du Québec. T'sais, on s'est plutôt attardé...
Pour le développement du port de Québec. On veut développer un terminal de conteneurs au port de Québec.
Oui.
Les camions vont devoir passer par quelque part.
C'est ça.
Il y a plein de bonnes raisons, mais ces bonnes raisons-là ne percent pas à Montréal. Et c'est la grande différence avec le combat pour l'autoroute dans le parc des Laurentides. C'est que pour la route dans le parc des Laurentides, il y avait une diaspora des Bleuets dans l'élite médiatique montréalaise.
Oui.
OK? Des gens qui savaient que cette route-là était dangereuse.
Et ça a aidé.
À leur vie.
Ben oui.
Et ça a fait en sorte que la grogne montréalaise à l'endroit de l'autoroute dans le parc des Laurentides a été beaucoup ralentie et beaucoup atténuée. Et donc, ça a pu passer.
Parlons des salles de nouvelles de 2026 maintenant. Lorsqu'on regarde le tramway, un projet qui est louche, un projet dont le tracé a été charcuté de beaucoup. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va avoir un gain net. Certainement pas pour les banlieues qui vont vouloir aller... les gens qui vont partir des grandes banlieues que sont Val-Bélair, Beauport et Charlebourg vers la Haute-Ville. Le tunnel immense qui sera fait à la hauteur du Grand Théâtre. Il y a beaucoup de données qui ne sont pas précises. On n'a pas d'update également à la sortie de la voie la semaine passée. On n'a pas de véritables chiffres. Mais les médias se taisent. Les médias choisissent leur cause et te donnent l'information pour spinner et refusent de te donner la bonne information quand ça pourrait jouer contre eux.
Pas toujours. Moi, j'hésite au grand complot des médias. C'est vrai pour les chroniqueurs et c'est ce qu'on leur demande, les chroniqueurs, d'avoir des opinions. Il faut aussi qu'on ait les chiffres exacts. Et moi, je me suis heurté au cours des dernières années au manque total de transparence du RTC dans le dossier. Le tramway remplace le bout du transport en commun qui va bien à Québec. Le 800-801, est-ouest de Sainte-Foy au centre-ville, il va bien. OK? C'est un transport qui va bien. Or, on va remplacer ce qui va bien par quelque chose qui va aller mieux. Mais ça ne m'explique pas comment on va faire les liens nord-sud qui vont très mal.
À un prix prohibitif.
Oui, mais à partir du moment où on a accepté d'être pris en otage par une industrie de la construction qu'on ne comprend pas, tout va être à prix prohibitif. Tu sais, je tombais l'autre jour sur un article sur un tunnel norvégien. Ils vont faire en Norvège un tunnel de 26 km de long à 400 mètres de profondeur. Ça va coûter 1,5 milliard d'euros. Double, mettons, 3 milliards de dollars. OK? Nous, on parle d'un tunnel de 2 km de long à 150 mètres de profondeur et ça coûte 10. Alors, on a un problème avec l'industrie de la construction. Il est grand temps qu'on ait une étude pour nous expliquer comment, dans des pays civilisés comme la Norvège, ils arrivent à faire les choses 2 à 3 fois moins cher que nous autres.
C'est ça. Arrivons pas avec des exemples en Chine. En Chine, c'est une dictature avec des gens sous-payés. Allons-y avec des pays de l'Occident, là.
Oui, la Norvège, c'est un bon exemple.
Tout à fait.
Puis c'est une géographie similaire. Ils passent en dessous des fleuves à 400 mètres de profondeur. Bon. Alors, on est pris en otage. C'est l'argument de l'argent à partir du moment où on croit qu'un projet en vaut la peine, il faut un peu le laisser tomber. Parce que tout ce qu'on va faire va coûter trop cher. Tout. Tant qu'on n'aura pas compris ce qui fait en sorte que notre industrie de la construction n'est pas concurrentielle et ne nous permet pas de nous offrir ce dont on a besoin.
Je reviens sur le troisième lien. Tu as vu le sondage ce matin dans Le Soleil. Et ça veut dire que le projet est quasiment mort et enterré. Il y a Fréchette qui est en avance. Elle n'en veut pas. Elle n'ose pas le dire. Drainville est en recul. On verra comment ça va se dessiner. Mais ça a été tellement tripoté et retripoté. T'en dis quoi?
Moi, ça ne me surprend pas. Je te dis, pendant 40 ans, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont plaidé jusqu'à ce que les étoiles s'enlignent. C'est une idée qui appartient au peuple, qui appartient aux gens de la région. Le prochain qui va le proposer sérieusement, il va peut-être avoir notre appui, mais il fera pas ça sans le fédéral, donc il va falloir qu'on attende que les étoiles s'enlignent. Il va falloir user de patience. Mais c'est le genre de projet, l'autoroute dans le parc des Laurentides pour les Saguenayens, le troisième lien pour les gens de Québec, c'est le genre de projet qui appartient au monde et qui tôt ou tard va se faire. Maintenant, actuellement, pour les 4 prochaines années, oublions ça, il n'y en a pas un qui le promet.
Est-ce qu'un pont de remplacement, moi, l'idée, je l'avais lancée, mais là, ça semble être repris de manière parcellaire par Fréchette, on verra bien. Là. Mais tu sais, tu as vu à Montréal, je comprends que c'est un pont fédéral, mais quand même, quand on a dit un pont de remplacement, le fédéral a soigné dans la balance pour participer à facture avec le pont Victoria, le pont Champlain, qui est un pont fédéral, je comprends, juridiction fédérale,
c'est autre chose. On a attendu qu'il soit sur le bord de tomber et qu'on puisse circuler.
Ben, c'est quasiment le cas, tranquillement, pas vite, du pont Pierre-Laporte, si on le laisse aller.
Absolument. Puis le pont de Québec a été confié pendant 30 ans au CN, qui a refusé de peinturer. Il est plein de trous maintenant, puis on ne sait pas très bien comment on va arriver à sauver sa structure. Un pont de remplacement ne règle pas le problème du fer à cheval.
Je comprends. Le périphérique, c'est ce qu'on veut.
Et le fer à cheval, ça fait en sorte que la route 20 ouest, que la route 20 et que l'autoroute de la capitale sont surchargées.
Absolument.
Donc le problème de la surcharge de ces deux voies-là est dû notamment au fait qu'on finit en fer à cheval.
Il y a les coûts, l'industrie, mais il y a également les syndicats et les lobbies. L'UDA est très, très, très... L'UPA est très forte. L'UPA, protégeons les terres, protégeons l'île, protégeons la terre agricole de mon oncle et de ma tante. Tu sais, à chaque fois qu'on parle de ça, le fer à cheval, tu viens de le dire... Myriam, on en revient à l'île d'Orléans à ce moment-là. Faites donc un projet intégré avec les deux ponts. Non, ils ne veulent pas le faire. Mais cette voie de contournement-là...
On a raté une occasion.
Ben oui.
On a raté une occasion. Mais je te dis, il faut être patient. Ce sera peut-être dans 20 ans. On ne sera peut-être plus là, ni toi, ni moi. Mais c'est le troisième lien est quelque chose qui appartient aux gens. Et veut pas, ça va finir par se faire.
La logique va l'emporter.
Forcément. Et un jour, quelqu'un va écouter le monde de Québec à la place de les traiter de cave parce qu'ils appuient à 70% un projet qu'on ne comprend pas.
Myriam Segal, au plaisir de se reparler.
Salut.
Salut, bye. Myriam Segal.